Le mouvement des Gilets jaunes a changé sa vie. Il en est l'une des figures les plus populaires, les plus suivies sur les réseaux sociaux, l'une des plus contestées aussi dans les médias mainstream. Son groupe Fly Rider Info Blocage est suivi par 175 000 personnes. Des soucis familiaux l'avaient éloigné quelque temps des manifestations. Maxime Nicole est avec nous ce soir en direct à Paris. Bonsoir Maxime.
Bonsoir.
Je rappelle l'état de notre levée de fonds. QG, bien sûr, vous le savez, pour ceux qui nous suivent désormais depuis le 18 juin, est un média sans publicité, un média transpartisan, un média par le peuple, pour le peuple, avec le peuple, que vous seul pouvez financer. La contrepartie de ça, bien sûr, c'est que si vous ne nous aidez pas, si vous ne nous soutenez pas, si vous ne construisez pas avec nous dès ce soir ce média, celui-ci ne sera pas à l'antenne en septembre prochain. Je rappelle que vous pouvez donner toute la soirée durant l'entretien avec Maxime Nicole, qui est aussi la première édition de Quartier Libre, la grande émission d'entretien de Quartier Général. Vous pouvez donner toute la soirée sur le lien qui s'affiche en dessous de votre écran. QG, le média libre, sur le site KissKissBankBank, sur la plateforme de financement que nous avons choisie, KissKissBankBank. Vous pouvez bien sûr aussi vous renseigner plus en détail sur le projet. Vous pouvez lire notre manifeste qui est soutenu par une cinquantaine de personnalités intellectuelles, politiques et artistiques. Vous pouvez bien sûr découvrir le contenu des futures émissions que vous aurez bientôt à disposition en ligne. QG ne verra pas le jour sans vous. Je voulais vous le rappeler ce soir. Chaque euro compte et chaque euro compte dès ce soir. Je vous rappelle la règle du financement participatif. Elle est cruelle, mais elle est ce qu'elle est. Si nous n'atteignons pas l'objectif complet, l'objectif financier de 80 000 euros d'ici une quarantaine de jours, eh bien chacun sera remboursé et le projet QG ne pourra pas voir le jour et nous ne serons pas à l'antenne en septembre prochain. Tout de suite, nous passons à l'entretien du soir avec Maxime Nicole. Maxime, je le disais en introduction, vous avez été éloigné du mouvement, ou du moins des manifestations, des samedis pendant plusieurs semaines pour des graves soucis familiaux. Est-ce que votre fille va mieux désormais ?
Alors, ça commence à aller mieux. J'avais précisé que justement, pendant plusieurs semaines, je serai absent de ce qui peut se passer dans la sphère jaune, entre guillemets, parce que je voulais séparer le côté privé et le côté activiste, entre guillemets, puisque c'est comme ça qu'on nous nomme. Donc ça commence à aller mieux, et heureusement, parce que c'était pas parti pour que ce soit le cas. Et donc voilà, c'est ce qui m'a permis aussi de recommencer les lives sur Flyrider Info Blocage et d'être présent à partir de samedi, comme avant, sur les lieux de manifestation. Voilà.
Alors Maxime Nicole, vous êtes avec nous ce soir pour faire le bilan de ces 6 mois historiques, de ces 6 mois incroyables de lutte que vous avez vécu, dans lesquels vous vous êtes situé en première ligne. Les européennes, qui sont la dernière échéance politique que nous avons vécue au niveau national, ont vu arriver en tête le Rassemblement national et Emmanuel Macron sur la seconde marche du podium. Après 6 mois de lutte, vous le savez bien, pour beaucoup de gens, ça a été quand même une terrible douche froide. Quelle est votre interprétation de ce résultat ?
Je pense que déjà... dire que le Front National, c'est la première fois qu'il arrive en tête à des européennes, c'est un peu se cacher la vérité, puisqu'en 2014, le Front National était devant l'UMP aussi, à plus de 24%. Donc c'est pas une surprise, mais il faut relativiser la chose en disant que la moitié des gens n'ont pas voté aux européennes, le taux de participation dépasse à peine les 50%. Donc toute proportion gardée, en fait, il y a moins d'un Français sur 10 qui ont voté pour le Front National, gilets jaunes ou pas d'ailleurs, en fait, personne éligible et voix comptabilisée, c'est moins d'un Français sur 10. Donc non, c'est pas une surprise, puisque c'est un peu le joker du système, le Front National. Tant que le Front National est là pour faire peur, on choisit, comme certains politiques le disent aujourd'hui, c'est moi ou le chaos. Sauf que le chaos, c'est eux qui le mettent en place. Ça laisse le champ libre à des façons de voir les choses et de voir la vie un peu extrême, comme par exemple le Front National. Mais c'est pas le seul parti qui a des visions extrêmes. Et donc ça, c'est bien dommage. Maintenant, ça ne reflète pas ni le mouvement des Gilets jaunes, ni la France entière. Comme je disais, c'est un Français sur 10 à peine. Donc ça prouve bien déjà que majoritairement, le premier parti, c'est l'abstention, et c'est les gens qui ne sont pas éligibles et qui ne sont pas inscrits, et qu'à côté de ça, c'est loin de faire l'unanimité. Comme La République En Marche d'ailleurs, puisqu'elle a fait à peine plus de 20%, ce qui fait aussi pas loin d'un Français sur 10. Pour un parti qui est aujourd'hui au pouvoir, c'est pas vraiment... une victoire flagrante.
Alors évidemment, vous le savez bien, hein, c'est un résultat qui a fait plaisir à pas mal de monde, parce que depuis le début, on le sait, pour les médias et pour toutes sortes de gens, les Gilets jaunes, c'était un mouvement de fachos. Et donc le mouvement de fachos a voté pour des fachos aux européennes, c'est QFD, la boucle est bouclée. Qu'est-ce que vous leur dites aux gens qui pensent ça?
Je pense que le fascisme, si on en croit la définition du fascisme et qu'on regarde ce qu'est le fascisme dans les années 30 en Italie par exemple, celle de Mussolini, on regarde aujourd'hui ce qui est appliqué par le gouvernement en place, On veut un organisme qui vérifie ce que les médias font, alors que les plus gros diffuseurs de fake news, de mensonges d'État, c'est bien eux. Dixit, Emilien, enfin Monsieur Emilien, qui était le conseiller d'Emmanuel Macron et qui, par le biais de faux comptes Twitter, a diffusé des fausses vidéos visant à aider un peu Monsieur Benalla, qu'on n'oublie toujours pas aussi. Visant à tromper l'opinion publique, mais c'est un peu ce qui se passe aussi avec les élections, parce que quand vous dites aux gens que 25% des gens ont voté Front National, dans la tête des gens, c'est un quart de la population qui a voté Front National. Or, quand on regarde l'abstention des personnes qui n'ont pas été inscrites sur les listes électorales, ce qui représente quand même 8,8%, et les personnes qui n'ont pas voté pour des partis comme ça, quand on fait le calcul, c'est moins d'un Français sur 10. Donc sur 47 millions d'électeurs, ça fait même pas 4 millions de personnes, 4,7 millions de personnes en France. Ce qui est relativement rien comparé à l'autre côté où majoritairement on a des gens qui ne croient plus en ce système politique, qui est tout à fait conscient que les lobbies financent les campagnes politiques européennes, que une fois en place, les politiciens n'appliquent absolument pas les programmes qu'ils ont fait voter, puisque la Constitution, l'article 27, leur permet de le faire, que tout mandat impératif est nul, rien ne les oblige à faire ce qu'ils ont dit pendant leur campagne. Et aujourd'hui, je crois que pour se dire que l'État respecte les institutions, en disant que c'est les Gilets jaunes qui veulent détruire les institutions, je pense que la séparation de la justice et de l'État, elle n'est pas là. On voit des jugements expéditifs pour des Gilets jaunes pour presque rien, sans fondement, sans preuve. On voit par contre des policiers où les enquêtes d'IGPN durent des mois et où même la directrice de l'IGPN dit que la violence policière n'existe pas. Pourtant, des blessés graves, des yeux en moins, des mains arrachées, des ovaires en moins, puisqu'il y a une jeune femme de 19 ans qui a aussi perdu un ovaire à cause d'un tir de LBD. Il y a aussi une personne, Zineb Redouane, qui est décédée des suites d'un tir, peut-être plusieurs, d'ailleurs, à Marseille.
Au tout début du mouvement.
Voilà, et aussi 11 autres personnes qui ont perdu la vie à cause d'un gouvernement qui ne pense pas à sa population et qui, parce qu'il ne pense pas à sa population, l'a fait sortir dans la rue. Parce que quand les gens en ont marre, à un moment donné, ils réagissent.
Quelle est la place des idées extrémistes, justement, au sein du mouvement? Cette place dont on a le sentiment qu'elle a été sans arrêt sous les feux des projecteurs des médias, mais que finalement, elle n'était pas si conséquente.
C'est un peu comme ça aussi que je vois le fascisme, c'est-à-dire c'est la montée de la peur chez les gens. Comment on fait accepter du n'importe quoi aux gens en leur faisant peur? Aujourd'hui, dans un mouvement social qui a réuni tout le monde, c'est-à-dire dans les rues, il y avait des personnes arabes, des personnes juives, des personnes africaines, blanches, naines, handicapées, roux et à casquette à l'envers. Il y avait tout le monde sur les manifestations et ça n'a jamais posé aucun problème. Je n'ai pas souvenir dans une manifestation qu'il y ait eu un combat de rue entre des personnes algériennes qui sont nées en France, mais d'origine algérienne, donc française, et des Français qui sont nés en France et d'origine, par exemple, européenne. Ça n'a jamais été une question dans les manifestations, ni un problème en fait. Le seul problème qui a été causé, c'est les médias mainstream qui ont rabâché ce genre de choses, l'antisémitisme, le racisme, etc. Alors que j'ai croisé des personnes juives qui, d'elles-mêmes aussi, m'ont dit « Quand est-ce qu'on va nous foutre la paix avec cette histoire ? Quand est-ce qu'on va arrêter de rabâcher l'attaque du juif comme étant quelque chose, le petit joker pour faire taire les gens ?» J'ai absolument rien contre les personnes d'origine juive, de religion juive ou de confession juive, ni n'importe quelle religion, en fait. Ça n'a jamais été un problème et ça ne le sera jamais.
Oui, là, c'est souvent utilisé comme un rayon paralysant pour...
C'est ça, c'est fait pour faire taire.
Pour faire taire.
C'est un peu comme le viol. Quand on dit à quelqu'un qu'il est soupçonné de viol, tout de suite, il perd toute crédibilité. Même si c'est une attaque non fondée, si c'est fondé, ça doit être puni et c'est tout à fait normal. On ne doit pas s'en prendre à une femme et les violences faites aux femmes ou les viols sont très graves. Mais quand c'est infondé, vous perdez tout de suite toute crédibilité. Et autant la présomption d'innocence est voulue pour les policiers, puisque c'est encore quelque chose qui est discuté, autant pour les Gilets jaunes, il n'y a pas eu de présomption d'innocence. On a tout de suite été catégorisé en boucle sur les chaînes mainstream aux 20h. Et les rares médias qui ont voulu prendre parti en essayant d'être juste et d'évaluer la situation avec un angle de journaliste se sont fait incendier. Et je pense à vous qui l'avez fait sur le média. Je pense à Didier Maestro, qui...
Le
patron de Sud Radio, qui ne prend pas parti, mais qui a un œil de journaliste et qui fait son travail.
Qui est littéralement harcelé sur les réseaux sociaux.
Et qui est harcelé en permanence, menacé aussi. C'est pas le seul. On est d'ailleurs, c'est l'État qui veut voter une loi pour la haine sur les réseaux sociaux, mais qui ne parle jamais, par exemple, des pro-Macron, des macronistes anonymes ou de différents réseaux qui s'en prennent et qui menacent les Gilets jaunes de mort, d'assassinat et j'en passe et des meilleurs.
Alors pour terminer sur la question des européennes, vous n'êtes pas sans savoir que certains Gilets jaunes ont été déçus de ne pas voir s'avancer à cette élection une liste à leurs yeux entièrement légitime. Alors je ne parle pas bien sûr d'Ygritte Levavasseur hein, ou des autres qui ont tenté leur chance. Je pense à une liste qui aurait été emmenée par les personnalités qui ont du poids dans le mouvement, qui comptent vraiment pour eux. Il y a vous, il y a Éric Drouet, il y a Priscilla, il y a François Boulot aussi. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Puisque je crois savoir que vous avez été sollicité d'ailleurs pour entrer sur une liste aux européennes.
Oui, j'ai été sollicité. Alors Francis Lalanne voulait me parler de sa fameuse liste aux européennes. Il voulait m'inviter à manger, etc. J'ai refusé parce que j'ai toujours dit depuis le départ que je ne me politiserai pas. Enfin, du moins, je ne rentrerai pas dans un parti politique tel que ça existe aujourd'hui et je ne participerai pas à la construction du mouvement. Je diffuse des informations sur cette construction, mais je n'y participerai pas. Donc j'ai été contacté, oui, évidemment, pas que d'ailleurs par M. Lalanne ou par d'autres personnes que j'ai citées avant, mais par Joachim Sonneforger, un ancien de La République En Marche aussi, qui m'a envoyé un message auquel je n'ai même pas répondu. Et en fait, pour revenir à Mme Levavasseur et aux autres personnes qui ont voulu rentrer en politique dans le mouvement des Gilets jaunes, je pense que ce n'était pas le moment, comme on l'avait expliqué, ce mouvement se veut apartisan, et à syndiquer. Et je pense qu'il aurait fallu que d'abord le mouvement se structure doucement pour arriver au municipal, et c'est ce que des Gilets jaunes préparent actuellement, de façon
alors,
à...
Cela, vous les soutenez ?
Mais je pense que c'est une des seules manières de faire rentrer l'application d'un RIC local et de montrer que ça fonctionne. C'est-à-dire, comme au niveau national, le gouvernement fera tout pour éviter un référendum. Et on le voit actuellement avec le référendum ADP, puisque... ils sont en train de faire croire qu'ils veulent abandonner le projet, alors qu'on sait très bien qu'ils ne lâcheront pas. Ils l'ont défendu bec et ongle pendant des mois. On voit qu'ils font tout pour éviter le comptage des participations et qu'ils assument entièrement de le faire, alors que c'est démocratique. On pourrait demander que, puisque d'un côté, les noms sont diffusés de façon lisible pour tout un chacun, on voudrait aussi pouvoir comptabiliser le nombre de personnes qui ont participé. Et ce n'est pas le cas. Et le gouvernement s'en félicite limite. Donc comme on sait qu'au niveau national ça ne passera pas, on se dit que ce que les gens voudraient, ce serait voter non pas pour des personnes qui n'appliqueraient pas ce pour quoi ils se font lire, mais voter pour un programme collectif qui convient à la majorité et qui est fait dans le sens où on peut avoir un consensus pour faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver, puisse vivre dignement, puisse voir ses maisons de retraite en bon état, etc., etc., etc. Et donc au municipal, faire en sorte que ce soit un programme qui soit voté et qu'ensuite, par domaine de compétences, des personnes soient tirées au sort, par exemple, pour appliquer ce programme avec des mandats révocatoires et impératifs. Ce qui évite toute forme de conflit d'intérêts, toute forme de chèque sous la table ou de pratiques dont ils ont forcément l'habitude. Puisque
ça, c'est une démarche que vous soutenez.
C'est une démarche que je soutiens de structuration parce que je pense que la seule forme autre que la politique actuelle, c'est la collectivité et c'est une forme d'application de ce qu'on veut de façon collective. Donc je soutiens ce qui est en train de se faire au niveau des mairies. Oui.
Alors venons-en à la question de la politique, justement de la structuration politique de la suite du mouvement. C'est vrai que vous dites souvent dans vos interventions et dans tous les lives que vous avez fait cet hiver que vous ne croyez plus au système électoral. Au système représentatif pour améliorer nos vies. C'est un reproche que vous faites, par exemple, à quelqu'un que, par ailleurs, vous estimez, je crois, à savoir François Ruffin, député proche du groupe La France Insoumise à l'Assemblée. Vous lui reprochez, en quelque sorte, de rester député et donc, à sa façon, de rester dans le système. Mais j'ai envie de vous poser la question ce soir, peut-être à la place de Ruffin, justement. Si l'émeute ne fonctionne pas, parce qu'elle n'a pas fonctionné, le pouvoir macroniste est toujours en place à l'heure où on se parle, et si on ne met pas un pied dans le système représentatif, dans le système électoral, alors qu'est-ce qu'il faut faire ?
Bah, Alors, déjà pour commencer, j'ai pas d'affiliation particulière avec un parti politique. Donc, Ruffin, je l'apprécie dans le sens où c'est quelqu'un qui dit ce qu'il ressent et ce qu'il voit. On l'a encore vu dans la cour de l'Assemblée nationale dire aux gens vous faites des lois pour l'écologie, vous dites à tout le monde qu'il faut payer le carburant plus cher pour que les gens roulent moins parce qu'il faut plus d'écologie, mais vous laissez tourner les véhicules de ministres dans les cours pendant des heures en attendant les ministres pour être là quand ils sortent et qu'ils descendent les escaliers. Donc, il dit des choses qui sont percutantes, qu'il soit de France Insoumise ou pas, moi je m'en fiche en fait, le parti, peu importe. Ce qui me dérange, c'est que...
France Insoumise, à proprement parler.
Oui, voilà. Bon, après, voilà, c'est juste pour préciser que peu importe le parti, en fait, qu'il en ait ou pas, d'ailleurs. Mais moi, ce qui me dérange, en fait, c'est d'avoir une personne qui sait que ça ne fonctionne pas, qui le démontre par A plus B et à plusieurs reprises, mais qui reste encore dans ce système. S'il avait eu une approche différente, je comprends les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ce n'est pas ce que les médias disent, c'est ça. Les gilets jaunes, c'est le gars qui se lève le matin et qui galère parce qu'il n'arrive pas à trouver du boulot. C'est le gars qui a une petite entreprise et qui galère à se payer un salaire parce qu'il a des ouvriers. Enfin, c'est tout un tas de secteurs d'activité qui sont touchés, presque tous aujourd'hui, qui restent quand même dans ce système. Je pense que s'il avait démissionné, ça aurait été un signal fort en disant « Ben voilà, moi je pense que votre système est vraiment pourri et les gens qui sont dans la rue, ils ont bien raison et je m'en vais. » Et aujourd'hui, donc la solution, qu'est-ce que ça pourrait être ? Eh bien, je pense que déjà, en passant par les municipales, c'est une façon de montrer qu'il y a une autre solution et qu'elle peut fonctionner. Si on ne montre pas aux gens qui sont encore réfractaires à un changement que ça peut fonctionner, ils resteront réfractaires. C'est un peu comme ceux qui disent « faut pas parler avec un raciste, mais si on ne lui parle pas, on ne pourra jamais lui montrer qu'il a tort. » Eh bien, si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. On ne peut pas nationalement, parce que ce sera toujours refusé, ils feront en sorte de protéger leurs petits copains, leurs lobbyistes, tous ceux qui les financent. Donc on ne pourra pas de front. Et comme on ne peut pas attaquer un boxeur professionnel avec des gants de boxe, eh ben on va y aller avec la ruse et on va y aller tranquillement. Parce que la seule chose qui n'est pas encore verrouillée, ce sont les municipales. Ça viendra peut-être dans les années qui viennent. Ils feront peut-être des projets de loi pour mettre des seuils, faire en sorte que les gens qui puissent se présenter sortent d'école ou je ne sais pas quoi encore. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. N'importe qui peut se présenter à des municipales. On n'est pas obligé de sortir de l'ENA ni d'avoir fait des grandes écoles. Et le but, c'est pas d'élire quelqu'un, encore une fois, c'est d'élire un programme conçu collectivement et de faire en sorte que les personnes qui appliquent ce programme soient révocables et aient un mandat impératif. Ça leur empêche de faire ce qu'ils veulent. Et s'ils ne respectent pas la volonté collective, ils sont révocables. Donc voilà, si ça fonctionne, on pourra faire comprendre aux gens qui sont encore réfractaires à ça que c'est possible et ça fonctionne.
Qu'est-ce qui, Maxime Nicole, qu'est-ce qui, selon vous, jusqu'ici, a manqué pour faire plier le pouvoir de Macron durant l'hiver?
Pourquoi
si peu de choses ont été obtenues finalement, alors qu'il y avait des gens dans la rue toutes les semaines, ce qui est historiquement complètement inédit?
Je pense qu'il n'y a rien manqué. C'est-à-dire qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour que les gens puissent changer les choses. Par contre, il y a eu quelque chose pour contrer tout ça. Et ça, c'était très violent, très puissant. Ça s'appelle les médias mainstream. Et ça s'appelle la justice française qui n'a d'indépendance que sur le papier peut-être, parce qu'on l'a vu à des dizaines de reprises, un commissaire tabasse des gens déjà menottés, il est toujours en service. On a une personne de la DGSI qui a planté un ciseau dans la gorge d'un adolescent et qui pour l'instant n'est pas forcément plus inquiété que ça. On a une personne qui a disparu à Nantes dans les eaux après une charge de police, mais apparemment il n'y a pas eu de charge de police, il n'y a peut-être même pas eu de fête de la musique à écouter la préfecture. Donc voilà, il y a des mensonges d'État qui sont relayés par les médias mainstream, et je pense très fortement à BFM TV, à CNews, à LCI, pour nommer qu'eux, des médias qui ont refusé de parler de violence policière dès le départ, alors que je pense que quand on perd un œil à cause d'un LBD qui est vendu par la Suisse comme une arme de guerre, on ne peut pas nier que l'utilisation d'armes de guerre sur des civils, ce ne soit pas quelque chose de normal dans un pays démocratique, par exemple, et pour citer que ça. Et je pense par exemple à Jérôme Rodriguez qui se bat actuellement, et c'est pas le seul puisqu'il y a plus d'une vingtaine de personnes dans son cas, et il a réussi à obtenir le fait que le dossier de l'IGPN soit transmis à son avocat, chose que refuse de faire le gouvernement alors que c'est une décision de justice. Il y a plein de choses dans la justice qui vont pas. La première chose, c'est qu'elle n'est plus indépendante. Tant qu'elle sera plus indépendante, il y aura plus de justice. Il y aura la justice des pauvres, ceux qui doivent se taire et qui doivent aller en prison. Elle est jaune, cette justice. Et il y a la justice des riches, c'est ceux qui peuvent cacher des coffres-forts, appeler le président comme si c'était un ami et avoir des badges d'accès au niveau à des assemblées nationales, par exemple, sans que ça pose problème. Voilà.
Ah, Alors, puisque vous avez abordé la question épineuse des médias mainstream, restons un petit moment sur votre propre expérience au cours de cet hiver. Vous avez sans doute été l'une des figures les plus malmenées dans ces médias-là, et ça a duré pendant 6 mois. Vous avez successivement été présentée comme un complotiste, comme un factieux, et au tout début du mouvement même comme un lepéniste dissimulé, enfin tapis dans l'ombre. Il y a même eu des moments, j'estime, de violence pure à votre égard. Je pense notamment à un plateau de Cyril Hanouna. Voilà, vous étiez en présence de votre avocat Juan Branco. C'était à la fin du mois de mars 2019 et vous avez été injurié, sans doute comme peu de gens l'ont été dans l'histoire de la télévision. Ce que j'avais envie de vous demander, c'est est-ce qu'à un moment vous avez été à ce point blessé que vous avez sérieusement pensé à jeter l'éponge ?
Alors, blessé, non. Fatigué, oui, parce qu'il n'y a rien qui m'a préparé dans ma vie à vivre ce que j'ai vécu ces 7 derniers mois. Et je pense en fait que tous les gilets jaunes qui ont manifesté étaient sur des lieux de manifestation, n'étaient pas préparés à ce qui allait se passer. On ne pouvait pas savoir à quel point ça serait violent psychologiquement. Moi, j'ai été médiatisé, c'est encore un peu différent, mais ça n'enlève pas, c'est pas plus important que n'importe quel gilet jaune qui a subi des violences, psychologiques ou physiques. Mais non, j'ai pas voulu arrêter, justement, ça n'a fait que renforcer l'envie que ça change. Donc, je dirais pas que ça m'a donné envie d'arrêter, ça m'a fatigué. Voir quelqu'un comme Éric Nolot passer 45 minutes de son temps à essayer de détruire quelqu'un qui n'est pour lui pas grand-chose au final, juste parce que ça fait plaisir à son audimat et que ça lui fait quelques-unes sur les journaux, je trouve ça ridicule, premièrement, et deuxièmement, pour quelqu'un qui n'a pas foutu les pieds sur une manif et qui ne sait pas ce que c'est, peut-être qu'il a une vie différente de ce que je pense, mais quand on en arrive à cracher sur la gueule de gens qui manifestent parce qu'ils ne s'en sortent pas, je pense qu'on n'a pas vécu la galère dans sa vie. Parce que quand on a vécu la galère dans sa vie, je pense que être contre des gilets jaunes, c'est un peu se voiler la face. Donc voilà, c'est une personne qui a du mépris pour les autres, j'en aurais pas pour lui. Je dis simplement qu'il se trompe, il a tort, et à la fin, le temps lui prouvera qu'il a tort et qu'on avait raison.
Vous avez aussi reçu des menaces de mort tous les jours, oui. D'après ce que vous avez dit sur certains...
Oh oui.
De votre...
J'ai reçu des menaces de mort,
lives.
J'ai reçu des menaces de m'attraper en manifestation, de me ligoter, de plein de choses. Mais je pense que si on s'arrête à ça, on fait plus rien. Donc je continuerai à aller en manifestation, je continuerai à sortir, je continuerai à vivre le plus normalement que je peux en faisant ce que je considère être juste.
Alors il y a quand même une chose qui m'a frappée dans le traitement qui vous a été réservé par le pouvoir cette fois-ci, et non par les médias, c'est que, contrairement à une personnalité comme Éric Drouet, qui a été l'objet d'un véritable harcèlement judiciaire répété, hein, en manifestation, bon, qui risque là une peine de prison avec sursis, hein, vous avez passé quelques heures dans un commissariat, je crois, d'un acte à Toulouse.
À Bordeaux.
À Bordeaux. Et vous avez aussi été convoqué une ou peut-être plusieurs fois au commissariat de Rennes.
Alors j'ai été convoqué une fois à Paris et 3 fois à la gendarmerie de mon domicile.
Alors comment ça se passe et qu'est-ce qu'on dit à Maxime Nicole dans les commissariats ?
Alors quand j'ai été convoqué à Paris, c'était suite au déclenchement de l'article 40 par Édouard Philippe, donc ça a été signé de la main de Castaner. Christophe Castaner, pour incitation à la commission de crimes et délits, suivi des faits. J'ai été convoqué pour répondre de ce qu'on me reprochait. J'ai fait une déclaration en disant que je n'ai jamais explicitement ou implicitement dit aux gens qu'il fallait tout casser, au contraire. À plusieurs reprises, j'ai même envoyé des messages à un ministre, et je ne m'en suis pas caché puisque j'ai diffusé ces échanges de messages sur le groupe Flyrider Info Blocage, où je lui disais justement qu'il fallait une désescalade de la violence et que le gouvernement devait faire en sorte que ça n'escalade pas et que ça n'explose pas. Ce à quoi on a dit à M. Mounir Majoubi de ne plus me parler. Voilà. Je pense que je ne vis pas quelque chose de différent par rapport à quelqu'un qui est en garde à vue ou qui a été placé et qui est aujourd'hui sous mandat de dépôt, parce qu'il y en a aussi. Je dis simplement que on essaye de vous faire peur. On essaye de vous dire que vous êtes de la merde, vous êtes minable. Vous représentez que 0,1% de la population. Sorti d'un sondage BFM TV et Lab, je ne sais pas d'où ça vient, sur un échantillon représentatif de macronistes peut-être. Voilà, on essaye de vous faire peur, on vous intimide. J'ai la gendarmerie qui passe souvent à côté de chez moi pour vérifier si mon véhicule est là. J'ai les renseignements territoriaux qui m'appellent de temps en temps pour voir si je suis toujours vivant et à quel endroit je me trouve. Donc c'est une espèce de pression psychologique qu'ils essayent de maintenir. Sauf qu'en fait, j'en ai strictement rien à faire en fait. C'est-à-dire qu'on peut me mettre des bracelets, me mettre en garde à vue. J'en ai déjà fait quand j'étais plus jeune parce que je ne suis pas un ange et que je ne suis pas parfait. Mais j'ai par contre jamais refusé d'accepter de payer ce que je devais payer quand je faisais une connerie. Donc j'ai toujours assumé quand je faisais une connerie. Je me suis toujours remis en question quand je faisais une connerie. Et je continuerai à en faire parce que je suis un être humain. Mais je ne lâcherai absolument pas ce que je suis en train de faire parce que je considère que c'est juste. Parce que quand je vois une grand-mère qui fait des poubelles après un marché ou quand je vois une jeune femme de 18 ans faire de la prostitution pour payer son loyer parce qu'elle veut faire de grandes études et elle rêve de voyager. Et quand je vois un président qui répond à ça, bah vous avez qu'à travailler plus et traverser la rue, et bah je dis que
et
non.
Et vous achetez un costard.
Et vous achetez un costard parce que vous savez qu'une casquette à l'envers, vous êtes trop con pour parler, il faut une cravate. C'est quand même... J'ai fait l'effort, j'ai mis une chemise aujourd'hui. Ça fait un peu plus... peut-être
vous
qu'on...
êtes très parisien.
C'est ça, voilà.
Est-ce qu'il y a eu des tentatives... Vous parliez du ministre Mounir Majhoubi. Est-ce qu'au-delà de ça, il y a eu des tentatives de contact officiels ou officieux avec des personnages de l'État pendant la durée des Gilets jaunes?
Officieux non, sauf si on parle de Mounir Majhoubi parce qu'il m'a contacté, je ne pense pas qu'il avait l'accord de l'Élysée. Mais j'ai été...
C'était une initiative personnelle.
Alors il est venu me contacter en direct sur un de mes lives en disant « Bonjour, je suis le ministre des Numériques, je serais content de vous parler ». Donc on avait pris contact comme ça, donc je ne pense pas que ça ait été demandé par l'Élysée, mais en tout cas, je ne m'en étais pas caché, j'avais précisé à tout le monde que j'avais contact avec ce ministre, qui n'est plus ministre d'ailleurs. Non, il n'y a pas eu d'officieux, il y a eu donc Joachim Sonneforger, mais qui n'était plus à La République En Marche, donc pas dans le gouvernement. Et en membre du gouvernement, non, personne. Oui, il y a eu Francis Lalanne, il y a Dieudonné par le biais d'un de ses... je ne sais plus comment on appelle ça, quelqu'un qui gère son agenda peut-être, mais j'ai refusé.
Qu'est-ce que vous lui avez dit?
J'ai pas envie de rentrer dans des débats en fait où ça va être question de religion. C'est des débats qui sont pour moi... Quelqu'un qui veut vivre une religion doit avoir le droit de la vivre sans emmerder la planète entière. Et quelqu'un qui ne veut pas être religieux a le droit de ne pas l'être sans emmerder ceux qui le sont. Je pense que la meilleure façon dans un pays de vivre correctement... Et là, je prendrai un exemple parce que j'adore cet endroit. J'y ai vécu 9 mois. C'est l'île de la Réunion. Je passe un bonjour à tous les Réunionnais parce que c'est une île qui sont non mais vraiment qui est géniale. Parce que là-bas, vous avez de tout. Vous avez des Arabes, vous avez des Malgaches, vous avez des Tamouls, des hindouistes, des hindous. Vous avez tout et tout le monde passe son temps à profiter de la vie et pas se prendre la tête avec ce genre de trucs. Et nous, on s'appelle les oreilles là-bas. Les métropolitains, ils appellent ça les oreilles. Donc voilà, j'ai été un étranger sur un dom-tom. Parce que c'est leur île, même si c'est un territoire français. Et ils sont
Vous
très fiers de
leur île. Vous avez été une minorité visible.
J'ai été une minorité visible, voilà. Et en même temps, je suis très blanc et roux. Donc j'ai toujours...
Très visible.
Voilà. Mais ça ne me dérange pas, en fait. Parce que pour moi, la différence, ça doit être la norme. On peut pas... Ça, c'est le fascisme, avoir une idée qu'il faut une ligne de conduite, il faut que tout le monde pense pareil. Il faut plus de droite, il faut plus de gauche, il faut que tout le monde soit... Je pense qu'il faut de la différence, il faut ne pas être d'accord, parce que si on n'est pas d'accord et qu'on discute, c'est là qu'on soulève les bonnes questions et c'est là qu'on avance. Et c'est pour ça que, pour reprendre ce que plein de gens ont dit, moi, quand j'ai quelqu'un qui est raciste en face de moi, je vais parler avec lui. Parce que si je ne parle pas avec lui, je ne peux pas lui montrer qu'il a tort. Et je ne peux pas lui expliquer pourquoi il a tort. Si je le laisse dans son coin, c'est là que les idées fascistes, c'est là que les idées racistes se développent et c'est mauvais.
Et c'est une chose que vous avez faite pendant le mouvement, que vous avez eu l'occasion de faire ?
Bien sûr. J'ai parlé aussi avec des gens qui étaient contre le mouvement des Gilets jaunes. Pendant un live aussi, j'ai discuté avec des gens qui étaient anti-Gilets jaunes. Complètement. Et qui, à la fin de la discussion, une fois que les choses sont posées sur la table, parce que, à cause aussi des médias mainstream, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que ce mouvement. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Pourquoi ils sont dans la rue ? Qu'est-ce qu'ils veulent au fond ? À part tout casser, parce que c'est ce qu'on a fait tourner en boucle sur les émissions comme BFM TV. Ils font que casser. Mais non, derrière, il y a des gens qui veulent du circuit court, qui veulent plus de justice sociale. Il y a d'ailleurs un débat présidentiel qui a été fait pendant des mois, qui a coûté 12 millions d'euros, qui n'a strictement rien apporté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui ont payé, qui ont participé à payer ça, c'est-à-dire tous les contribuables, qu'est-ce que ça a apporté sur la table? Rien. Il n'y a pas de... Qu'est-ce qui est sorti de ça? Rien.
Un sédatif.
Voilà, un sédatif. Par contre, il y a ceux qui ont le vrai débat, Gilets jaunes, qui sont et qui ont mis aujourd'hui à disposition justement tout ce que ça a sorti, tout ce que les Gilets jaunes souhaitent. Il y a le top 50 des revendications qui sortent le plus. Il y a énormément de choses et je vous invite à aller voir d'ailleurs sur le site du Vrai Débat, vous verrez, c'est très structuré. Et au moins, ça montre que le mouvement des Gilets jaunes, ce n'est pas une minorité qui souhaite tout casser. C'est 80% de l'opinion publique, au moins 70%, qui souhaitent que les choses changent parce qu'ils n'en peuvent plus. Et on le voit aujourd'hui, quand les pompiers déposent 2 mois de préavis de grève, quand les services d'urgence, plus d'une centaine de services d'urgence sont en grève, quand les professeurs se mettent en grève parce qu'il y a une loi Blanquer qui va tout changer et tout chambouler là-dedans encore une fois. Et ben voilà. Et ça, encore une fois, c'est du fascisme. Tout changer, tout casser, tout détruire les emplois, détruire les salaires, c'est le fascisme des années 30. C'est comme ça qu'on a fait peur aux gens et qu'on a fait voter n'importe quoi.
Comment on peut accéder à ce... C'est la plateforme du Vrai Débat, vous dites?
Voilà, la plateforme du Vrai Débat. Et il y a tout un résumé qui a été fait, qui sera... Alors, ça fait partie aussi des initiatives, puisque on veut que les gens qui ne comprennent pas ce mouvement comprennent pourquoi les gens sont dehors. Il y a des initiatives comme la distribution de tracts pendant l'été sur les plages, expliquer aux gens ce qu'est ce mouvement, pourquoi il y a des gens qui sont dehors, pourquoi il y a des gens qui manifestent. Peu importe qu'ils aient un gilet ou pas d'ailleurs, puisque ceux qui manifestent dans les hôpitaux n'ont pas de gilet jaune, ils ont des blouses blanches. Et ils ont aussi un prénom, un nom, et ça pour tous les gens qui galèrent. Parce que c'est beau d'avoir un gouvernement qui vous dit que tout va bien dans le pays quand on est presque endetté à 100% du produit intérieur brut et qu'on efface les chiffres qui ne plaisent pas, comme les 10 à 15 000 suicides par an qui sont dus à la précarité et les 9 millions de personnes dans ce pays, dans un pays riche, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça, c'est des gens, ils ont des prénoms, ils ont des noms, ils ont des enfants, ils ont de la famille. Et il y en a pour lesquels c'est compliqué parce qu'ils finissent par mettre fin à leur jour parce qu'ils n'y arrivent plus. Et ça, quand on a une cravate... C'est facile de dire aux gens de serrer la ceinture. C'est beaucoup moins facile quand on a un membre de sa famille qui vient à sauter d'un pont. Je le souhaite à personne d'ailleurs, mais il y a un pays où un président a dit, plutôt que de mettre des portraits de moi dans les mairies, mettez des portraits de vos enfants. Comme ça, à chaque fois que vous prendrez une décision, vous les regarderez avant de choisir. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être important parce que moi j'ai 31 ans, mon avenir il est incertain, ma fille a 8 ans et demi, son avenir... Si je ne me bats pas pour qu'il soit un peu plus éclairé, je ne sais pas ce que ça va être.
Alors, je le disais tout à l'heure, Maxime Nicole, vous refusez la politisation. C'est une chose qui revient extrêmement souvent dans vos interventions. Vous rappelez souvent que vous n'appartenez à aucun parti, que vous ne souhaitez entrer dans aucun parti, que vous refusez toute proximité avec un parti, etc. Alors, j'avais tout de même envie de vous demander, parce que c'est une des problématiques, je pense, les plus importantes à l'heure actuelle du mouvement et qui va peser sur son avenir. Est-ce que, à un moment donné, quelles que soient les déceptions du peuple à l'égard des partis politiques depuis 40 années, etc., est-ce que ce n'est pas le moment, justement, de s'engager plus que jamais pour restructurer de nouveau la politique autrement? Parce que finalement, ce que vous avez fait depuis 6 mois, les Gilets jaunes et vous,
c'est
notamment.
C'est la politique au sens gestion de la cité.
Vous êtes emparé des affaires de la cité. C'est de la politique, c'est de la politique au sens noble.
C'est la vraie politique.
Est-ce qu'il n'y a pas du coup une sorte de blocage? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de dangereux, même finalement, à mettre dans l'esprit du peuple que tout processus politique, toute politisation est une menace?
Alors, je pense que dans la façon que j'ai eu de l'expliquer, c'était peut-être pas clair, mais ma vision des choses, c'est pas que... Et là, je parle que pour moi, pas pour le mouvement des Gilets jaunes, mais ma vision des choses, c'est que la politique, la gestion de la cité, si elle se fait collectivement, si elle se décide collectivement, elle peut fonctionner. Et c'est d'ailleurs la base de la démocratie, puisque l'étymologie de ce mot veut bien dire que c'est le peuple qui a le pouvoir et la gestion de son pays. On a aujourd'hui un système politique qui fait qu'on donne le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et c'est ce système politique-là que je réfute complètement, parce que c'est à partir du moment où on donne son pouvoir à quelqu'un, qui se trouve être une classe minoritaire, mais qui peut décider de tout, Et ben c'est là qu'on a des conflits d'intérêts, c'est là qu'on se retrouve avec du glyphosate dans notre bouffe, des vaccins alors qu'il n'y a pas de recul, on va faire 10 vaccins, 11, 12, 15, peut-être 20, peut-être être vacciné le fœtus, on ne sait pas. Mais voilà, il y a tellement de choses qui se décident alors que le peuple n'est pas d'accord, que la politique dans ce terme-là, la politique politicienne professionnelle de grandes écoles, non. Donc se lancer en politique, je pense que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est reprendre d'abord les mairies, montrer que collectivement ça fonctionne, et après ça suivra son chemin, les gens comprendront qu'il y a une autre façon, il y a une autre voie, et que c'est possible, mais pas dans la politique actuelle, pas dans ce système de fonctionnement actuel. Et d'ailleurs, pour que quelqu'un me dise le contraire, il faudrait qu'on m'explique comment ça se fait qu'aujourd'hui, combien de membres du gouvernement de Macron n'ont pas eu d'enquête du fisc ? Combien ont oublié de déclarer des revenus à hauteur de plus de 100, 200, 300 000 euros ? Chose que pour un smicard, c'est des sommes qui n'existent même pas dans les rêves les plus fous. Comment ça se fait que des ministres sont, gouvernement après gouvernement, on a des ministres qui sont épinglés pour détournement de fonds publics, pour plein d'affaires qui, pour un petit patron d'entreprise, signerait la fin de sa carrière, il serait obligé de couler la boîte et de mettre la clé sous la porte et d'avoir des dettes jusqu'à la fin de ses jours. Aujourd'hui, on a des personnes qui, demain, détournent de l'argent public, après-demain, sont ministres, ou vont dans le privé, ou reviennent sur les médias, ou voilà. Ces gens sont presque en dehors sont hors sol complètement. On ne peut pas les atteindre. Pourquoi ? Parce que la justice n'est plus indépendante, parce que la police est instrumentalisée, parce que le peuple n'a plus de pouvoir, et c'est pas, à mon sens, en rentrant dans un système politique tel qu'il est actuellement, qu'on changera quoi que ce soit. Et on le voit par exemple avec M. Ruffin, qui dénonce tout ce qu'il peut dénoncer, mais qui, au final, ne changera jamais rien. Regardez.
Vous le dites.
Ben, je le dis parce que je vois par exemple l'attitude de tous les ministres qu'il a pris à partie en sortie de l'Assemblée nationale parce qu'il laissait les véhicules tourner, il voulait leur avis. Il y en a qui ne l'ont même pas regardé, avec un regard de dédain. C'est-à-dire que M. Ruffin, dans l'Assemblée nationale.
Vous voulez dire qu'il est condamné à position minoritaire.
Il est condamné à dire pas content, pas content, pas content. C'est-à-dire que pour moi, M. Ruffin, c'est un peu le patron de syndicat qui va faire se balader des gens avec des pancartes, tout ça pour aller négocier quelque chose après. Ruffin ne veut sûrement pas ça, mais en tout cas, il ne se cache pas d'évoluer politiquement non plus. Donc, il dénonce un système, mais il reste dedans. Il y a une contradiction qui me dérange.
Alors, on va reparler de la question centrale des médias, bien sûr. Les médias français se sont particulièrement illustrés cet hiver. on le sait, par une vision du conflit des Gilets jaunes extrêmement unilatérale, biaisée et malveillante. Quels ont été les signes les plus évidents de ça pour vous, ceux qui vous ont marqué le plus, ceux qui vous ont consterné le plus ?
Première chose, le nombre de manifestants. Vous avez BFM TV qui est capable de louer un appartement au dernier étage des Champs-Élysées pour filmer la Coupe du Monde et montrer à quel point il y a du monde sur les Champs-Élysées, et qui est incapable de le faire pour un mouvement social, pour dire au gouvernement, si, il y a du monde. Arrêtez de dire qu'il n'y a personne. Non, ça n'a pas été fait. C'est une des premières choses. Deuxième chose, dès le début des manifestations, il y a eu des violences policières. Ils ont attendu 3 mois pour en parler. Donc, à un moment donné, quand on sait qu'on a la responsabilité d'information, quand on est les médias les plus vus dans un pays démocratique, soi-disant, on a la responsabilité morale de diffuser une information qui peut sauver des gens. Donc quand on a un gouvernement qui n'en fait qu'à sa tête, qui est condamné par l'ONU, qui est condamné par la Ligue des droits de l'homme, qui se fait recadrer par les observateurs des pratiques policières, et qui dit non, il n'y a personne qui... Non, c'est parce qu'il y a des sauvages en jaune qui ont lancé des pavés sur des boucliers et qui ont voulu tuer du flic. Alors, moi, j'ai vu des gens lancer des pavés, j'ai vu des gens lancer des canettes de bière ou des pétards sur des policiers équipés, boucliers, gilets pare-balles, casques. Et j'ai vu des policiers lancer des pavés sur des manifestants, parce qu'on a les vidéos qui ont été diffusées. J'ai vu aussi des policiers tirer à moins de 10 mètres avec des LBD dans le visage, parce que quand on vise avec un viseur holographique à 10 mètres, je peux vous garantir qu'on est précis. Et j'ai vu aussi...
C'est l'ancien militaire qui parle.
Oui, mais j'ai fait aussi de l'airsoft en loisir et je peux vous dire que même avec un airsoft qui n'est pas précis, à 30 mètres avec un viseur holographique, vous faites mouche. Et pourtant, c'est des billes en plastique qui ne sont pas du tout létales, celles-là. Vous avez aussi Monsieur Détinger qui a regretté son geste, mais qui a défendu une femme qui se faisait taper par deux gendarmes, qu'on a vu aussi sur la vidéo, et qui était au sol. Donc, par exemple, on a Monsieur Détinger qui frappe au sol un gendarme, qui le regrette, et c'est tant mieux qu'il le regrette. Et on a des journalistes qui disent « c'est une tentative de meurtre, il a voulu tuer du flic ». Et juste avant, on voit deux policiers tabasser une femme au sol, mais c'est de la légitime violence. Je ne dis pas de la légitime défense, c'est de la légitime violence. Et des cas comme ça, M. Dufresne les documente sur Twitter, il y en a des centaines. Donc, encore une fois, ceux qui sont anti-gilets jaunes, peuvent-ils m'expliquer comment on peut justifier, comment on peut être d'accord avec le fait qu'en France, la police soit instrumentalisée, qu'on sait très bien que des gens sont avec des idées peu ragoûtantes dans la police, qui usurpent le mot gardien de la paix, ils mettent un uniforme et ils ont envie de casser du jaune. Et ils cassent du jaune. Et après, ils sont couverts. Moi, j'aimerais bien que l'IGPN, ce soit plus la police qui enquête sur la police, par exemple. C'est ce genre de choses qu'on voudrait changer, et c'est pour ça que quand on me dit que le gilet jaune, il veut détruire les institutions, non, le gilet jaune, il veut arrêter que les institutions soient violées par des personnes qui sont mises en place par des lobbies en les finançant, et qui, une fois mis en place, ne pensent qu'aux dividendes d'actionnaires et aux profits que ça pourra leur apporter divers et variés. Nous, on veut de l'humain, on veut que les gens soient au centre des préoccupations du pays et pas au second plan, une fois que ça arrange, quand il faut se faire élire.
Alors, pour rester sur la question des médias et de l'information, au cours de l'hiver, vous avez embrassé passionnément, même, on peut le dire, la cause de Julian Assange, donc le fondateur de Wikileaks, qui est actuellement en instance d'extradition vers les États-Unis ou la Suède, on ne sait plus trop. Vous êtes même rendu à Londres, dans la ville de détention actuelle de Julian Assange, pour le soutenir. On a le sentiment que la question de la liberté de l'information dans notre pays est devenue absolument centrale au bout d'un moment dans le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez que des prises de conscience, des seuils de prise de conscience décisifs ont été passés dans la population française cet hiver et que celle-ci pourrait avoir des effets positifs ?
Alors,
inspirer une légitime méfiance des citoyens à l'égard de ce qu'on leur met sous les yeux, de ce qu'on leur fait penser, de ce qu'on leur...
Mais je pense que le premier résultat, c'est le classement de la France dans la confiance envers les médias. Parce qu'on est tombé bien bas, on est à moins de 24% des Français qui pensent que les médias mainstream diffusent des informations réelles. Et je pense que Julian Assange, pourquoi j'ai été voir Julian Assange, ou du moins pourquoi j'ai été dans la ville où il a été, où il s'est lui-même emmuré pendant 7 ans dans l'ambassade d'Équateur, juste à côté d'Arrots. Et d'ailleurs, le jour où on a été là-bas, on a vu M. Ferry faire ses courses à Arrots. Pendant qu'il demande à tirer sur les gilets jaunes, monsieur fait les courses dans des magasins de luxe. Chose qu'un gilet jaune ne peut pas faire, parce que vu les prix là-bas, enfin bref. Et donc, pour dire, Julian Assange, je pense que c'est au-delà d'un homme, c'est quelqu'un qui montre que quand on a des convictions et quand on veut que les choses soient montrées au grand jour, quand on fait son métier passionnément, parce que lui, pour moi, c'est un vrai journaliste. C'est quelqu'un qui a mis sa vie de côté, s'est mis en danger, et est en danger actuellement, pour informer la population dans leur intérêt. Et pas la population française, la population mondiale. Wikileaks, c'est une base de travail qui devrait servir, je pense, d'idée à tous les journalistes. Et je pense qu'aujourd'hui, les journalistes devraient avoir peur de ce qui se passe. Peur pourquoi ? Parce que si on est capable d'incarcérer, de déporter, parce que j'appelle pas ça... c'est quelqu'un qui n'a absolument plus rien à se reprocher. En Suède, on l'a poursuivi pour des affaires de, pas de viol, c'était des attouchements apparemment, des rapports non consentis. Sauf qu'en fait, une des deux femmes a retiré sa plainte, la deuxième on lui a interdit de retirer sa plainte, et en 6 ans d'enquête préliminaire, il n'y a absolument rien qui a amené à dire que c'était vrai ce qui s'était passé et que Julian Assange était responsable. C'est d'ailleurs pour ça que la Suède a arrêté les poursuites. L'enquête apparemment devrait être ouverte, mais là j'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est que si on vous met Julian Assange aux États-Unis, il risque très gros, voire on connaît la justice américaine, on sait que ça peut aller jusqu'à la peine de mort. On sait qu'il est activement recherché, qu'il s'est caché parce qu'il était recherché par les services américains et qu'il voulait le faire taire. Si on arrive à faire taire une personne comme ça veut dire qu'on met en cause le secret, le, la protection des sources. Si demain vous avez, comme par exemple Mediapart peut le faire, mais admettons que vous êtes en contact avec quelqu'un qui est proche d'une affaire d'État et qui peut vous donner des renseignements, si Julian Assange demain est extradé aux États-Unis et qu'on vient à dire que maintenant c'est terminé, les sources ne doivent plus être protégées, vous ne pourrez plus faire votre travail de journaliste correctement. Parce qu'on pourra venir vous dire non, qui ou comment. Et donc plus personne ne va vouloir parler. Une source, elle parle parce qu'elle se sait protégée. Et c'est d'ailleurs tout le travail de Julian Assange, c'est la protection des sources. C'est ça qui dérange, c'est qu'on ne sait pas qui, quand, comment. Si on arrive à faire tomber Julian Assange et qu'on arrive à faire des lois liberticides en matière d'information, et ben vous serez rendu à devoir dire ce qu'on vous dit de dire au moment où on vous dit de le dire et de la façon dont le gouvernement vous aura dit de le dire. C'est d'ailleurs ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec les médias de vérification où quand vous, par exemple, j'ai publié le fait que un responsable de la Direction Générale du Service de l'Intérieur avait été mis en examen pour détention d'images pédopornographiques et viol. Vous mettez ça sur Facebook, Facebook vous dit que ça enfreint les règles des communautés de Facebook et que vous ne pouvez pas le diffuser.
Est-ce que vous avez eu des gros incidents au cours de l'hiver avec votre groupe Flyrider Info Blocage, qui était devenu
On a eu des,
un carrefour très important pour le mouvement?
On a eu beaucoup de censure et c'est toujours le cas. On a un onglet, en fait, quand on a le groupe, qui permet de voir comment les médias de vérification voient votre groupe. Donc, c'est la qualité du groupe. Et on voit qu'il y a beaucoup, là, j'ai depuis le début du mouvement, sur ce groupe, 355 publications qui ont été effacées ou censurées. Alors, ils effacent pas vraiment. Ils ont une petite ligne que je pourrais publier, qui est facilement accessible. C'est-à-dire qu'ils mettent... Il y a un algorithme qui dit que si vous êtes classé comme un média qui diffuse des fake news, vous aurez une audience. Tout sera placé en bas des fils d'actualité, mais ça peut arriver à n'importe quel média, en fait.
Vous êtes invisibilisé, en fait.
Invisibilisé,
sur
c'est
les
ça.
Fils d'actualité.
Et d'ailleurs, Monsieur Zuckerberg, je corche son nom peut-être, a accepté de donner les adresses IP des personnes qui... aurait des propos haineux sur les réseaux sociaux. J'ai juste précisé que ça ferait plaisir à certains gilets jaunes parce qu'avec tout ce qu'on se prend depuis le début en propos haineux, et là je pense encore à monsieur Maestro et à vous-même parce que vous en avez pris aussi pas mal en défendant les gilets jaunes ou du moins en prenant le parti de choisir de diffuser des informations sur ce sujet. Voilà, vous avez fait aussi l'objet de beaucoup de violences. Et je sais que c'est pas facile. Et donc voilà, aujourd'hui, on en est rendu à soit devoir se taire, soit devoir se battre et s'en prendre plein la tronche. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent encore se battre.
Où en sont les projets du mouvement aujourd'hui? Est-ce que vous êtes inquiet, Maxime Nicole, de voir arriver le grand trou de l'été, qui est toujours un mouvement un peu angoissant pour les mouvements sociaux, on le sait?
Je pense que angoissé, non. Apeuré, non plus. Je pense que on est des êtres humains. Il y a des gens qui ont pris du repos en janvier, il y en a d'autres qui l'ont pris en février, il y en a peut-être qui le prendront cet été. Ce que je sais, c'est que ça a déclenché des prises de conscience. Et que ça, c'est pas parce qu'il fait 40 degrés que les gens vont retourner derrière leur télé, allumer BFM TV et écouter la petite soupe gouvernementale. Là, je vois M. Mounir Majoubi qui va coller des post-it avec son numéro de téléphone sur les portes pour dire « Votre ministre est venu vous dire qu'il fallait boire ». Comme si les gens étaient trop cons pour savoir que quand il fait chaud, il faut boire. Mais bon. Non, j'ai pas de crainte particulière parce que je sais que le mouvement il est en train d'évoluer. Je sais que là, par exemple, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place pour la création d'un lobby citoyen parce que les citoyens n'ont pas de pouvoir, au final, ni politique, ni dans la vie de tous les jours. Il n'y a rien qui permet de peser. Il y a des associations à droite, à gauche, qui défendent l'environnement, qui défendent le droit des consommateurs, etc. Et en fait, il y a une initiative qui est en train d'être mise en place pour faire un lobby citoyen où toutes ces associations signeraient une espèce de charte commune, ou du moins se mettraient d'accord, et pourraient peser, un organe qui pourrait peser, et qui rassemblerait des gens qui luttent pour des causes justes. Donc c'est aussi en cours. Il y a beaucoup de choses qui se structurent, et ce n'est pas, encore une fois, parce que ça ne passe pas sur BFM TV que ça n'existe pas. C'est comme les violences en 2005 dans les quartiers. Ça passait pas sur BFM TV, mais pourtant c'était le cas. Et c'est d'ailleurs là où a été mis au point leur super LBD, puisqu'il fallait bien le tester sur des gens avant de le mettre et d'en acheter une flopée, comme ils sont en train de faire. Donc une pensée aussi pour les quartiers qui ont subi pendant des années. Mais voilà, je pense qu'il y a énormément de choses qui se font. C'est une initiative que j'ai aussi approuvée, et que je, enfin pas approuvée parce que j'ai rien à approuver, mais du moins soutenue. Et voilà, c'est comme par exemple votre initiative de créer un média indépendant. Je la soutiens parce que pour moi, s'il n'y a pas de média indépendant, il n'y a pas d'information concrète. Et on voit et on a vu depuis 7 mois comment était traitée l'information par des journalistes professionnels comme Monsieur Pro qui a vu la vermine envahir Paris et qui aurait préféré que le jaune disparaisse au lever du soleil. Mais voilà, je pense que...
On peut lui annoncer une mauvaise nouvelle, le jaune
Jaune,
toujours bien vif.
Bah déjà, il le verra tous les jours parce que c'est la couleur du soleil. Hein. Mais c'est toujours bien vif et c'est toujours, toujours motivé. Même s'il y a des gens qui sont un peu fatigués, qui baissent les bras ou qui ne vont plus manifester, ça prendra d'autres formes. Mais la prise de conscience... Il y a une phrase qu'on m'a dit au départ, les gilets jaunes, c'est le canari dans la mine. Le coup de grisou, il n'est pas encore là. Et le coup de grisou va arriver. On le voit partout dans le monde. On le voit à Hong Kong, on le voit en Algérie, on le voit au Venezuela. On le voit partout. Les gens, en masse, se soulèvent parce qu'ils n'en peuvent plus. La prise de conscience est là. Le système libéral tel qu'il est aujourd'hui arrive à... Il s'essouffle, il arrive au bout. Tous les... Et là, on va me dire, oui, Maxime Nicole, avec sa casquette, qui n'est pas capable de compter...
Oui,
parce que je ne suis pas très doué en mathématiques. Voilà. Et puis, alors,
je me suis trompé. De nombreuses personnes sont dans son...
Oui, et puis bon, voilà, après, on peut se tromper et puis on apprend. C'est une des capacités que certains de nos politiciens n'ont pas. Hein. Ils ne se trompent jamais, ils ont raison. Puis c'est parce qu'on est trop intelligent que vous n'avez pas compris. C'est leur phrase fétiche. Mais je pense que, voilà, on est dans une période de l'histoire où les choses vont changer, quoi qu'il arrive. Dans l'environnement est en train de nous montrer qu'on a été trop loin. On a les économistes, on a les politiciens, les politologues, on a tout le monde qui est en train de nous dire on arrive à un moment où ça va être le point de non-retour. D'autres disent qu'on l'a déjà passé. Je pense que se fermer les yeux en disant que tout va bien, c'est une grosse erreur. Et c'est ce que fait ce gouvernement. Il se ferme les yeux en croyant que tout va bien. Mais ça, c'est parce que M. Emmanuel Macron a un ego démesuré. Et que je pense qu'il y a un sérieux souci. Le fait qu'il soit le plus jeune président, je pense qu'il essaye de se prouver des choses à lui-même. Et il devrait...
C'est une piste psychologique.
Peut-être, hein, mais il a été aussi vu par des yeux extérieurs de psychologue et le résultat n'est pas très bon. Donc voilà.
Qu'est-ce que vous faisiez il y a un an, Maxime Nicole? Et est-ce que vous aviez imaginé un jour dans votre vie de devenir un personnage aussi public et devenir une cible de l'État?
Alors, du tout. Ça m'est tombé dessus à cause d'une vidéo, parce que ça a été relayé. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que c'est parce que l'algorithme Facebook a fait que la vidéo a été vue par plein de gens? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ça m'a apporté beaucoup de problèmes. Ça m'a apporté beaucoup de remises en question. Et il n'y a que dans ce genre de situation qu'on en sort plus fort. Donc maintenant, je sais encore plus qui je suis et je sais encore plus ce que je vaux. Il y a un an, j'étais le français de base, monsieur tout le monde.
C'est quoi, celui... le français de base?
Français de base, c'est celui qui essaye de s'en sortir. C'est celui qui n'a pas fait de grandes études, mais qui n'est pas trop con. C'est celui qui n'est pas capable de faire des calculs de tête, mais qui sait se servir d'une calculatrice. Hein. C'est pas parce qu'on ne peut pas le faire de tête qu'on ne peut pas utiliser une calculette. C'est le mec qui fait des barbecues dans un terrain l'été parce que c'est bon d'être avec les potes. C'est le gars qui fait de la bécane parce que c'est une de ses passions. C'est le gars qui va voir son grand-père pour savoir comment il va. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, j'aimerais bien le voir. C'est monsieur tout le monde, voilà. C'est juste monsieur tout le monde qui a des problèmes personnels, qui a des problèmes financiers, qui essaye de s'en sortir dans la vie de tous les jours. Et c'est ça aussi que je reproche au gouvernement et aux membres des gouvernements, c'est que la force qu'ils n'auront jamais, c'est que quelqu'un, monsieur tout le monde ou madame tout le monde, ben c'est tous les jours que c'est un combat. C'est tous les jours qu'il faut trouver des solutions et c'est tous les jours qu'il y a des choix à faire. Eux pensent que leurs choix prévalent sur les nôtres, que nos combats de tous les jours, c'est rien comparé à leur difficulté à prendre des décisions sur le papier. Mais je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, les bonnes questions, celles qu'ils auraient dû se poser, n'ont pas été posées. Et on en voit le résultat aujourd'hui. Et c'est pas fini, ça continuera. On voit le New York Times qui remet en question la santé psychologique d'Emmanuel Macron et qui se dit que peut-être il y a une dérive autoritaire dans un pays démocratique des droits de l'homme. Mais voilà, je pense qu'il y aura des résultats, il y aura des choses qui vont évoluer, des choses qui vont changer. Mais les choses, si on veut qu'elles soient solides, elles doivent se faire sur du long terme et pas sur du court terme.
Quelle est la principale leçon personnelle que vous avez tirée de cette expérience historique incroyable de 6 mois? En quoi le mouvement a-t-il changé votre façon de voir le monde?
Eh ben, avant, j'étais quelqu'un qui était vraiment anti-système pour le coup, mais vraiment anti-riche limite. Et en fait, j'ai appris aussi qu'il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui ont réussi personnellement à en avoir, qui se sont investis, qui ont travaillé, qui ont fait grandir une société et qui font vivre des gens. Et que ces gens-là, je les ai vus aussi sur les manifs. Et je ne parle pas des patrons du CAC 40, je parle de gens qui ont une boîte avec 3, 4 salariés, 10 salariés. Et qui ont des problématiques qu'on a du mal à comprendre parce que quand on les voit rouler en BM ou avoir une grande maison, c'est difficile. Moi, ce que ça m'a appris, ce mouvement, c'est que peu importe la situation qu'on a, peu importe dans les cases qu'on veut nous mettre, si on oublie le collectif et si on oublie l'humain, on part dans la mauvaise direction. Et ce mouvement, il a fait quelque chose que je pensais pas voir dans ma vie, c'est que ça a réuni des gens qui se seraient jamais croisés dans la vie de tous les jours et qui sont en train aujourd'hui de construire des choses qui vont durer dans le futur. Et qui auront un poids et un impact, et qui vont avoir des répercussions qu'on n'imagine pas aujourd'hui, mais je suis persuadé, et je reste persuadé, et convaincu, et déterminé à ce que ça, ce soit le cas, et que ça change.
Merci, merci Maxime Nicole, d'avoir été avec nous pour le premier grand entretien de la chaîne QG Quartier Général. Je rappelle à tout le monde que nous sommes en pleine levée de fonds, en plein effort pour construire ensemble un grand média populaire. QG, j'en rappelle les principes, QG est un média sans publicité, un média transpartisan, c'est le média du peuple et nous avons besoin du peuple, nous avons besoin de vous pour le financer, pour contribuer à ce grand média sans actionnaire, ce grand média de la liberté totale. Je rappelle que vous pouvez donner sur le lien qui s'affiche juste en dessous de cet écran, sur le site KissKissBankBank, une plateforme de financement participatif. Vous pouvez trouver des informations à notre sujet sur la page QG, le Média Libre. Cet après-midi, à déjà plus de 44% de notre objectif financier. Ce qui est un démarrage tout à fait puissant, tout à fait fort. Sans votre participation financière, néanmoins, QG ne verra pas le jour, car je rappelle le principe du crowdfunding, de ce qu'on appelle le financement participatif, à savoir si nous n'atteignons pas notre objectif final, si nous n'atteignons pas les 80 000 euros dont nous avons besoin pour nous lancer en septembre prochain, eh bien, QG ne verra pas le jour. Voilà, je vous dis à très vite. Nous vous donnerons, la chaîne QG vous donnera très vite des informations sur la suite de cette levée de fonds. Je vous dis à très bientôt et je remercie Maxime Nicole de nous accompagner ce soir dans la construction de ce grand média populaire.